La matinale de 19h. Le magazine de société de Radio Campus Paris. L'actu engagée.
Un petit village antifasciste vers la Sorbonne.
La culture décalée.
J'ai découvert ces albums et j'ai pété une pile.
Les sujets étudiants.
Pour moi, la démocratie étudiante, elle se fait dans les AG, dans les mobilisations.
Et ce qui se passe en Ile-de-France.
Le but, c'était en fait de préserver les terres agricoles autour de la capitale.
Du lundi au jeudi, de 19h à 20h, sur Internet, sur le DAB+, et sur le 93.9 FM.
Hommage ce soir à tous ces gens qui sont sur les flottilles de la liberté, cette quarantaine de bateaux qui ont tenté pacifiquement et en accord avec le droit international d'ouvrir un corridor humanitaire pour Gaza. En juin dernier, une flottille avait déjà voyagé avec à son bord, on s'en souvient, l'activiste Greta Thunberg et la députée européenne Rima Hassan. Leur bateau s'appelait Madeline. Alors Madeline, c'est Madeline Koulab, c'est la première pêcheuse, la première femme pêcheuse de Gaza. Elle pêche depuis ses 15 ans, quand son père a dû renoncer à aller en mer à cause de la maladie. Madeline est aussi très réputée pour ses plats de poisson. Et depuis le 7 octobre 2023, Madeline a dû fuir à de nombreuses reprises avec ses 3 enfants. Et elle a accouché de son 4e dans les premiers mois du génocide. Elle vit désormais dans ce qu'il reste de sa maison, à Gazaville. Elle dort à même le sol avec son bébé. Elle ne peut plus pêcher car son bateau a été détruit par les bombardements israéliens. Madeline est restée très en contact avec ses amis qui vivent à l'international. Elle leur a beaucoup raconté son quotidien pour faire en sorte qu'on continue à parler de Gaza. Savoir qu'un bateau porte son nom, elle dit que c'est une petite fierté, mais surtout une grande responsabilité, que c'est aussi un message d'espoir, je cite. Ils ont peut-être bombardé mon bateau, mais mon nom restera et voguera sur les mers. Alors ce soir, alors qu'Israël a intercepté ses 40 bateaux, et malgré ce générique peut-être un peu trop joyeux pour le sujet, j'en conviens, je vais vous lire un poème de Nimat Hassan, poétesse de Gaza, qui a écrit ce texte le 26 octobre 2023. Être mère à Gaza, c'est ne pas dormir, c'est tendre l'oreille dans le noir, tâter ses moindres franges, trier un à un tous les sons, et en choisir un, de quoi créer un conte à sa mesure, en faire une berceuse. Et quand tout le monde dort, se dresser comme un bouclier face à la mort. Être mère à Gaza, c'est ne pas pleurer, c'est ramasser la peur, la colère et les prières à plein poumon, attendre que les avions finissent de rugir pour libérer le soupir. Être mère à Gaza, c'est ne pas pouvoir être comme les autres mères, c'est faire du pain frais grâce au sel de ses yeux et voir ses tout-petits mangés par la patrie. Sur un tout autre sujet, où étiez-vous il y a 5 ans? Personnellement, j'étais tous les soirs à Radio Campus Paris pour m'occuper pendant une période de chômage, tout en scrutant avec inquiétude les chiffres de l'épidémie de Covid. Eh bien, 5 ans plus tard, j'en suis exactement à ce même point, je suis sans emploi et le Covid remonte, c'est tout à fait terrifiant. Pendant ce temps, à Paris, dans l'ancienne gare de Charonne, à quelques pas de l'église Saint-Blaise, la Flèche d'Or vivait les premiers jours du reste de sa vie, comme chantait Étienne Dao, grâce au travail d'un collectif d'associations bien décidées à faire de cet endroit un espace solidaire et politique. 5 ans plus tard, la Flèche d'Or est bien installée sur la carte de ces lieux franciliens alternatifs qui s'adressent aux franciliens qui veulent faire la fête, mais aussi et peut-être surtout aux habitants de ce quartier situé au cœur du 20e arrondissement, aux personnes âgées, isolées, minorisées, sans papier ou en situation de précarité. 5 ans plus tard, la Flèche d'Or connaît, comme bien d'autres lieux de ce type, d'importantes difficultés financières et vit désormais peut-être ces derniers mois sous cette forme en tout cas. Alors quel bilan de tirer de cette expérience? On va en parler avec nos 4 invités. À 19h40 dans le Zoom, Hubert reçoit Prin Davigo, c'est la réalisatrice d'un court-métrage consacré aux activités solidaires de la Flèche d'Or, notamment La Cantine, au cœur de ce petit documentaire donc. Un film que vous allez pouvoir voir ici même à la Flèche d'Or juste après notre émission, donc rejoignez-nous si vous nous écoutez en direct sur le 93.9 FM. Et puis des chroniques aussi avec Mathilde qui revient sur l'installation prochaine de Chine au BHV et aux Galeries Lafayette. Et puis en fin d'émission, Delila s'improvisait éditorialiste politique en cette journée de grève. Rendez-vous un peu avant 20h. Voilà, vous avez le programme de cette émission réalisée par Gabriel et Vaudoucy et programmée par Aude.
La matinale de 19h. Radio Campus Paris.
Et bonsoir Marina Montmirail. Je me suis trompée.
Non, c'est très bien.
Ah, j'ai eu peur.
C'est que je n'attendais pas à ce que ce soit moi.
On enchaîne. On a commencé avec un petit retard, on enchaîne. Co-fondatrice et co-responsable de la Flèche d'Or, on est ravis de t'avoir à notre table et on te remercie pour l'accueil aussi. On vous remercie, nos 4 invités. On a aussi Rachida avec nous autour de la table. Salut Rachida.
Bonsoir.
Responsable de programmation événementielle ici à la Flèche d'Or. À tes côtés, il y a Sandra Ndaïzamba.
Salut.
J'ai réussi à prononcer ton nom cette fois, ce n'était pas le cas la dernière fois. Tu es parfois bénévole ici à la Flèche d'Or. Tu es aussi là depuis les premières années un petit peu de ce collectif qui s'est monté pour faire revivre la Flèche d'Or.
Et elle est aussi co-responsable.
Et co-responsable, j'allais le dire. Et puis Mika Castro est aussi avec nous. Salut Mika.
Salut.
Voilà, salarié toi aussi à la Flèche, responsable des questions de coordination d'équipe et de développement. Il y a l'air d'avoir une belle ambiance à la Flèche d'Or.
Ouais,
il y en
ouais.
a une aussi très belle à Radio Campus Paris, sachez-le. Et à mes côtés, il y a d'ailleurs Francesca de la rédaction de Radio Campus Paris. Salut Francesca.
Salut, merci beaucoup. Bonsoir Mika, bonsoir Sandra, bonsoir Marina,
bonsoir Marina.
Rachida. Ok. Alors pour commencer, j'ai une question à poser à vous quatre. Voilà. Est-ce que vous pouvez nous raconter un moment marquant que vous avez vécu ici?
Il y en a plein. Moi, je veux bien commencer. Il y en a plein. Mais moi, je me souviens des préparations des cabarets qui étaient en parallèle des cuisines partagées. En fait, il y avait des personnes qui venaient cuisiner dans notre cuisine et il y avait des enfants. Et du coup, les enfants, ils traînaient avec les queens. Et c'était assez mignon et assez touchant. Voilà, ça, c'est un moment qui m'a marquée.
C'est trop dur d'en choisir un. Vraiment, c'est vraiment trop dur. Et le premier qui me vient en tête, là, c'est aussi par rapport au cabaret. Je me rappelle, c'était un after d'édition. J'avais la baby, la queen qui host les cabarets, qui avait fait une captation d'une édition au mois de juillet et qui l'a intégrée dans un de ses films documentaires sur la Flèche, notamment. Et je me rappelle de cet after cabaret où... je sais pas, j'avais pris le contrôle de la playlist d'After, j'avais mis de la disco et il y a les queens qui sont montées, elles étaient à moitié à Walp et elles étaient en train d'enlever leur make-up et elles faisaient du lip-sync sur la scène et tout le public était en train de chanter et c'était juste un moment de joie et c'était trop bien. Voilà.
Merci. Incroyable.
Non. Oula, effectivement, choisir un moment c'est difficile, mais moi, je dirais, alors j'ai des souvenirs moi, c'est les réunions beaucoup, les moments où on est ensemble. Parce que voilà, ça s'organise et donc il faut bien faire des réunions. Et parfois aussi, il faut s'accorder du temps pour débriefer. C'est un peu le côté after aussi, after moment. Et je fais partie des gens. Moi, j'ai déjà beaucoup dormi ici. Voilà. Et c'est ça aussi, c'était des très bons moments pour moi, très particuliers.
Super, beau bilan. Et toi, Mika, tu avais un souvenir qui t'est revenu peut-être?
Un souvenir, si, un peu pareil dans l'idée des mixités des publics qu'on a voulu un peu créer ici. On a lancé une soirée qui s'appelle Invertissement, une soirée PD. Et en parallèle, il y avait un après-midi où il y avait le Café des Heureuses, qui était un café des mamans du quartier, qui nous ont entendu dire PD, 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 et qui sont venus nous voir en disant « mais vous pouvez pas dire PD, il faut pas dire ça ». Et là, on a commencé un peu à discuter, et je pense que ça, c'est un des moments qui marque un peu ce qu'on a voulu faire ici.
Super, et comme ça, on fait un petit peu de l'explication de texte sur ce que c'est le retournement du stigmate ici à la Flèche d'Or. Il y a beaucoup de choses à apprendre, c'est super. L'actualité ce soir, c'est les 5 ans de la Flèche d'Or que vous célébrez depuis hier et jusqu'à dimanche. Rachida, est-ce que tu peux nous donner un peu les temps forts? Je sais qu'il y a beaucoup de choses jusqu'à dimanche. Voilà, on va revenir dessus après. Des choses à vivre ici à la Flèche d'Or jusqu'à dimanche.
Alors, il y a une thématique par soir. C'est vrai qu'on a été un peu zinzin. On s'est dit, c'est 5 ans, on fait 5 jours. Bah, alors qu'à chaque fois, chaque année...
Nous, à Radio Campus Paris, pour les 25 ans, on a fait 25 heures de direct.
Ouais, okay.
Et pour les 20 ans, on a fait 20 émissions en direct comme ça. Donc, ça nous parle totalement.
Ok, ça va, ça me rassure. Du coup, sur la programmation, comme je disais, il y a une thématique par soir, enfin, par journée et soir. Hier, on a accueilli une discussion avec des membres du collectif de la Flèche d'Or et aussi d'autres lieux amis avec lesquels on a l'habitude de discuter sur les enjeux de ce que c'est qu'être un lieu culturel et pas que, et aussi ce que ça représente en termes de risques et de dangers dans les jours, les mois et les années à venir sur le territoire. Ce soir, donc voilà, on a la soirée Jeudi Woke qui est là tous les premiers jeudis du mois. C'est une soirée qui est ouverte, c'est gratuit. Il y a à manger, il y a souvent des petits stands. Donc là, ce soir, il y a un super stand de crêpes et de galettes qu'il faut aller voir. C'est très, très bon. Demain soir, on a une soirée qui s'appelle Best Flesh Friends. C'est une carte blanche qu'on a donnée à des collectifs qu'on a l'habitude d'accueillir. Dax and Friends, qui est un collectif interne à La Flèche. Afterlife, qui est un collectif d'artistes de musique plutôt hyper pop et pop. Et Femstival, qui est un collectif qui fait plusieurs soirées aussi, dans d'autres lieux à Paris et aussi à la Flèche d'Or. Et on s'est dit, c'est notre anniversaire, mais c'est aussi le leur. Donc autant leur laisser un créneau. C'est une soirée à prix libre. Il y aura des lives, des hosts, des quiz et des DJ sets. Et enfin, samedi, c'est une soirée qui sera présentée par Noam Sinso et Safia Fierce. Et le line-up, ce sera de la musique, du live et du DJ set avec Nia Ryu, Janice et Jaya Rose. Et en DJ set, Imé Fertiti et Legolan. Et enfin, dimanche, je vais hyper vite comme ça, je fais tout. Dimanche, il y aura une pièce de théâtre pour les enfants à partir de 11h. Ça s'appelle Pourvu que ce soit une princesse. C'est une pièce de théâtre à 8 euros pour les adultes, bien sûr, accompagnants. Pour les enfants, ça sera gratuit. Et l'après-midi, il y a toute une équipe de nos chers services civiques qui vont bientôt nous quitter, malheureusement, avec notre camarade Adé, qui ont concocté une après-midi pour les familles, pour les enfants, avec des jeux, un Just Dance qu'on appelle Dance à OK, parce qu'on n'a pas le droit de dire Just Dance, mais je le dis quand même, et le format Flèche Academy, mais pour les enfants, donc Flèche Academy Kids. Voilà, donc un programme très chargé, mais vraiment super, et on a hâte de vous retrouver.
Voilà, venez passer votre week-end à la Flèche d'Or pour les 5 ans, Francesca.
Marina, en quelques mots, est-ce que tu peux nous raconter l'histoire de la Flèche d'Or avant ton arrivée, qui a eu plusieurs vies, me semble-t-il.
Avant mon arrivée.
Wow.
Mais avec l'aide de mes camarades, parce que, alors moi, bah, je sais que c'était une gare, voilà, une gare. Ça a été aussi un lieu où il y a eu des personnes, justement un petit peu dans notre esprit, qui sont venues. C'est avec le truc de Londres là. La voix tout Londres. Aidez-moi en vrai là. Alors,
juste pour oui tu veux vas-y.
Alors Mika, on t'écoute. Qui connaît l'histoire de la Flèche d'Or? Non, en gros oui. Avant nous.
Très bien celle-là.
Heureusement que tu connais celle la nôtre. Du coup, donc oui, Marina l'a dit, c'était une ancienne gare qui reliait Paris à Londres. Après, toutes les gares un peu de la petite ceinture sont arrêtées. Dans les années 90, c'est un collectif de jeunes des Beaux-Arts qui a récupéré la Flèche. Enfin, ça a été le premier lieu squatté de la petite ceinture. Ils ont vite négocié un bail avec la SNCF et ils ont créé un genre de café populaire, concert. Et c'est là un peu où la gare a pris. C'était le premier lieu culturel un peu alternatif parisien. Avec une dimension très orientée quartier, il y avait plein de scènes ouvertes. Là, c'était il y a quelques mois, il y a un mec qui est passé qui nous racontait cette époque, qui disait à quel point c'était un peu un truc de mixité forte et de vie locale. Et après, la gare a été rachetée par des boîtes de prod. Il y a eu deux boîtes de prod, alors Alias et une autre boîte. Ouais. Et là, petit à petit, c'est un peu plus tourné autour de scènes musicales, un peu underground, un peu niche, qui avait pas que...
Il y avait aussi, on ne le sait pas trop, mais des groupes comme Gossip, Adele, King Krul ont fait leur première scène à Paris à la Flèche d'Or. Voilà.
Je crois que Pete Doherty est passé par ici. J'ai vu Christine and the Queens à l'époque.
Également, oui.
Et ça a fermé en 2016-2017. La dernière boîte de prod, qui était Alias, du coup, arrivait pas à faire... Enfin, il y avait des problématiques de voisinage sur le bruit et tout. Et ils ont laissé à l'abandon ils ont revendu le site à une boîte d'investissement qui a lancé l'appel à projet.
Voilà. Et donc, trois ans plus tard, grâce à cet appel à projet, vous voilà. Peut-être, Marina, on te redonne la parole là-dessus. Et peut-être nous dire aussi, parce qu'à l'époque, on est, du coup, je l'ai un peu raconté tout à l'heure, la crise, la pandémie est un petit peu autour de nous. Donc, ça ne peut 2020. Pas être non plus le lieu culturel que c'est aujourd'hui. Et donc, je crois qu'au début, c'est surtout une cantine solidaire. Quel projet en fait à l'époque?
Pour un petit peu, je vais. Ouais. Moi, du coup, je suis arrivée parce que j'ai des copaines de Oblique, qui était donc un collectif queer et antiraciste, qui sont venues vers moi pour dire bah viens, on va participer à ce projet, etc. Et puis pour la programmation et tout ça. Et donc je suis arrivée ici et on était plusieurs collectifs et donc il y avait des grandes réunions et au début, comme il y avait le Covid, effectivement, on arrivait avec le... Moi, je suis arrivée, il y allait avoir le deuxième confinement. Et donc, oui, on ne pouvait pas ouvrir au public, on a ouvert que très peu. Et ça aussi, ça finalement, on a su rebondir sur l'arrêt qui était là. Et ça a quand même permis des relations entre les gens, se rencontrer, se fédérer. Et puis après, on est allé vers le fait de faire un seul collectif. Voilà. Et depuis, bah, c'est encore une toute autre très belle aventure qui continue et qui continuera quand même, même dans nos cœurs.
À l'occasion de l'anniversaire de La Flèche, vous vendez des sacs, oui, avec le slogan « Rêve, graille, lutte ». Alors, c'est pas mal, le mot graille, qui soit au milieu, parce que l'alimentation, c'est un des trois pôles d'ici, oui, justement, de La Flèche d'Or. Donc, on en parlera certainement tout à l'heure.
Dans le Zoom avec Zoom. Davigo. Ouais.
Pourquoi c'est important?
Pourquoi c'est important? Parce que c'est... Alors, moi, après, je donnerai la parole, ouais, à mes camarades. Mais justement, enfin, nous, on est aussi arrivés avec certaines idées ici. Et j'ai, comme je l'ai mentionné, moi, je venais d'un collectif donc queer et antiraciste. Mais en fait, et si on reprend aussi la thématique de la gare, eh ben, c'est aussi avant tout de se faire rencontrer des personnes qui ont plein d'histoires différentes. Parce que bien souvent, en fait, finalement, à Paris notamment, mais pas que, ben, on ne se rencontre pas. On a tous nos vies. Et en fait, on se rencontre très peu. Et l'alimentation et le choix aussi qui a été fait politique ici a été aussi de permettre l'alimentation pour un plus grand nombre. Et en fait, aussi de faire rencontrer donc des profils différents, des gens avec des histoires différentes, et pour voir qu'en fait, ça pouvait aussi très bien se passer. Voilà.
Et peut-être, Sandra, toi, tu es arrivée peu de temps après. Tu me disais l'été 2021 à peu près.
Yes, tout donc à fait.
T'as vu aussi, t'es aussi, pareil, une témoin un petit peu de l'évolution de La Flèche d'Or. Mm-hmm. Est-ce que tu dirais justement que, de ce point de vue-là, comme disait Marina, faire de La Flèche d'Or un lieu de rencontre aussi, un lieu qui favorise le lien social, est-ce que ça a marché? Qu'est-ce que vous avez vu changer? Qu'est-ce que toi, t'as vu changer peut-être dans la fréquentation de La Flèche d'Or entre 2020 et aujourd'hui? Question très large.
Waouh, ah oui, question très 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 large. Qu'est-ce que j'ai vu dans la fréquentation du luxe?
Ouais, dans les gens qui viennent. Est-ce qu'il y a un nouveau public aussi qui a réussi à venir jusqu'ici?
Oui, j'imagine qu'il y a d'année en année, il y a des nouvelles personnes qui arrivent. Je sais que au début, le parti pris était de faire la plupart des événements à prix libre, notamment, ce qui permettait, pareil, dans le côté accessibilité du lieu, de faire venir un public très large et de populations à peu près précaires. Je sais qu'il y a eu donc il y a un pôle action solidaire, ouais, sociale à La Flèche qui est maintenant porté par la personne d'Adé. Il y a des personnes qui bénéficient de plusieurs types d'actions sociales, de l'aide pour des démarches administratives, notamment des repas gratuits aussi. Et ce sont des publics qu'Adé et aussi que le lieu veut faire venir aux événements, parce que ce sont souvent des personnes qui ont plus de 40 ans passés ou qui ont des parcours de vie... autres et qui ne sont pas forcément très proches d'une programmation d'un lieu comme La Flèche. Quoi. Et donc, moi, j'ai vu des gens venir bénéficier de ces actions, ensuite venir en public ou rester l'après-midi, squatter, se mettre dans un coin et puis rester le soir à la soirée, ou même intégrer le collectif et participer, parce qu'on utilise, on a besoin de beaucoup de bénévoles pour faire fonctionner le lieu. Et qui, du coup, passent de juste bénéficiaires de ces actions à bénévoles du lieu, et qui vont faire l'accueil ou qui vont être derrière le bar ou faire la sérénité. Du coup, c'est... Voilà. Je peux
dire, d'accord. Ça. Justement, on va revenir dessus. Mika, peut-être. Donc, La Flèche d'Or a besoin de bénévoles. Est-ce que vous pouvez nous dire quelles sont les missions sur lesquelles vous avez des besoins et aussi comment on peut s'engager?
Alors, des besoins, on en a surtout. C'est un peu aussi une des bases du projet. Il y avait une volonté d'avoir une équipe salariée pour proposer notamment à des personnes minorisées des postes dans le secteur culturel, etc. Je pense que ça faisait partie des engagements qu'on a pris, nous, au départ, quand on a lancé le lieu. Mais aussi dire, on veut garder une dimension citoyenne, entre guillemets, mais en tout cas, où des personnes peuvent s'investir et on est un espace un peu d'engagement. Du coup, il y a différents niveaux où s'investir. Il y a toutes les activités, on va dire, plus techniques, enfin, les activités de terrain, qui vont être servir au bar, faire de la billetterie, aller cuisiner, et voilà. Faire les maraudes, les petits-déj solidaires du week-end, il y a toutes les actions du dimanche aussi qui mobilisent énormément de monde. Et après, il y a aussi tous les espaces, et c'est ça aussi la particularité du projet de La Flèche, les espaces de gouvernance et de pilotage de projet qui sont eux aussi collectifs, à travers un comité de pilotage qui réunit près d'une trentaine de co-responsables, c'est notre conseil d'administration, et des commissions d'activité qui coordonnent les grands pôles d'action de la structure, avec aussi des bénévoles en mixité avec les salariés. Et voilà, ce qui donne une grande joyeuserie décisionnelle.
Oui, il y aurait beaucoup de trucs à dire aussi, effectivement, sur la gouvernance, telle qu'elle a été réfléchie. Plutôt. Mais il est déjà 19h21, donc on va écouter un peu de musique. La Flèche d'Or fête ses 5 ans et Radio Campus Paris a l'honneur d'être convié à la fête. On continue à en parler dans un instant.
Before you found me, I was fading away in their faces. I was scared of myself, scared of what they were saying. I missed my mother in this land of promises. The first time I fell in love, they looked at me like a fool. They believe in gods and monsters and they think they own the truth. People can take everything away from you. People can take everything away from you. Never take away your grace.
C'était une artiste qu'on aime beaucoup ici à Radio Campus Paris et qu'on retrouvera ce week-end sur la scène de la Flèche d'Or. C'était Janice avec ce titre Grace, extrait de son EP sorti en 2022, 19h25.
La matinale de 19h, 93.9 FM.
Je fais des gestes et Marina est pétée des airs. On passe un super moment à la Flèche d'Or. Mais à j'adore. L'occasion des 5 ans.
Parce que je pense que je vais faire ça maintenant en réunion.
Ouais, grave. Ça déclenche des sons, c'est génial. Voilà. Si je le fais trop, après, Gabriel et vos Nussi qui sont au fond, là, deviennent folles. On est toujours à la Flèche d'Or, lieu solidaire et culturel emblématique du 20e arrondissement, qui fête donc ses 5 ans, 5 ans, 5 jours de festivité, on l'a dit tout à l'heure. Un lieu festif, un lieu politique surtout. Rachida, donc, on l'a dit, tu t'occupes de l'événementiel ici. Comment est-ce qu'on fait en tant que responsable prog pour que le fait de dire la fête, c'est politique, ça ne soit pas juste un slogan?
Alors, c'est une question très vaste.
Et tu n'as pas tant de temps que ça pour répondre.
Oui, voilà. Après, comme disait Mika au début, c'est vrai que c'est dans la genèse du projet d'avoir voulu aussi bien représenter et donner la place à des communautés minorisées que ce soit dans les équipes, les équipes salariées et aussi sur les artistes qu'on accueille et les collectifs aussi qu'on accueille sur scène. Je dis collectif parce que c'est un travail aussi d'accompagnement qu'on fait tout au long de l'année. On a des partenariats avec différents collectifs qui débutent souvent et dont la collaboration a lieu sur le long terme et avec lesquels on travaille pour certains et certaines depuis au moins 4 ans, 5 ans. Quoi. Voilà, donc pour moi, le fait que la fête soit politique... Je suis un peu gênée par cette question parce que... En vrai, les existences des personnes minorisées sont politiques, donc que ce soit dans la fête ou le travail ou pour tout.
Je pose la question aussi en pensant à des lieux et des collectifs qui vont peut-être porter ce discours, mais l'entrée dans la soirée, c'est 25 balles et il faut consommer un maximum, quoi, ce qui n'est pas tout à fait le même ordre de prix Flèche d'Or.
C'est vrai que nous, comme le disait Sandra, on avait à cœur de mettre tous les événements à prix libre, mais finalement... vu notre modèle économique et le fait qu'on ait voulu aussi salarier de plus en plus, on avait besoin quand même d'avoir un peu plus de revenus. Donc, on est passé à certains événements à prix libre, d'autres à prix qu'on appelle prix palier. Mmh. Donc, on propose toujours 3 tarifs. Et sur les 3 tarifs, il y en a toujours un qui correspond aux finances de chacun, chacune. Et chacun est libre de choisir, en fait, le tarif qui correspond le mieux, quoi.
Alors, justement, hier, vous organisez une table ronde, c'est ça ? À laquelle étaient conviés d'autres représentants des lieux culturels menacés à Paris et en banlieue, le Sample, Wafa et la station Gare des Mines. Le défi, c'est d'être un lieu ouvert à tous, c'est bien ça, qui ne transige pas avec son projet politique, pour que chacun garde son indépendance. Est-ce que c'est encore possible aujourd'hui, justement, d'avoir toujours ce type de lieu ?
Est-ce que c'est possible de réussir à garder son indépendance, continuer à financièrement s'en sortir ? Est-ce que la Flèche d'Or, en 5 ans, vous avez réussi à trouver un petit peu un équilibre, Mika, sur la...
Ok.
Oui, mais sur la question de l'indépendance, qu'est-ce qu'on appelle l'indépendance ? En tout cas, faire fonctionner un lieu comme le nôtre, où on a décidé de salarier des gens, et ça a été dit, c'est pas n'importe quel gens, ça a des coûts. Payer des artistes, ça a des coûts aussi. Du coup, on a oscillé depuis le début entre des enjeux d'accessibilité forte au plus grand nombre, avec notamment cette idée du prix libre, et aussi, à un moment donné, ne plus réussir à équilibrer le budget et devoir faire des choix. Essayer de garder des prix très bas au bar, par exemple, mais pareil, avoir des grandes discussions sur le fait qu'on va augmenter quand même la perte de 50 centimes, parce qu'on essaye de consolider les moyens pour que le lieu tourne, et aussi, on sait que pour qu'un lieu y tourne et dans la pérennité, il faut qu'il ait un peu de moyens, parce que trop de lieux précaires... où en tout cas les conditions de travail sont trop précaires, font que les gens partent et on retrouve aussi toujours les mêmes personnes dedans. Donc il y avait aussi cette réflexion-là. Donc c'est difficile de tenir des lieux. C'était totalement la question qu'on a essayé un peu de partager hier avec différents lieux associatifs, parce que c'est ça aussi qu'on essaie d'identifier hier, c'était de dire il y a toute une panoplie de lieux qui existent à Paris, des lieux commerciaux, des lieux associatifs à but non lucratif, et on a aussi du mal à se repérer aujourd'hui dans... la diversité qui existe et les discours qui sont aussi mis en avant autour de certains lieux marchands. Quoi.
Tu veux compléter peut-être, Marina ?
Ce que je pourrais compléter, c'est en fait... est-ce que tu peux re-bien dire la fin de ta question,
En fait, du fait qu'on ait enlevé des subventions sont moindres, et en fait, ça devient quand même une bataille en fait, de garder l'indépendance à travers vous faites, comme l'abonnement à 20 euros, par exemple, etc.,
donc garder l'indépendance. En fait, moi,
d'essayer de survivre sans avoir ces subventions, ça devient un défi.
Moi, j'allais juste rajouter ce côté où essayer. Je crois que c'est vrai. Et moi, la première, j'aime bien gagner au jeu. J'aime bien réussir, bien sûr. Mais en fait, ça fait partie aussi des lieux où ça me fait du bien de m'autoriser à essayer. Et en fait, c'est ça qui est très important. Et ce lieu, politiquement et dans tout ce qu'il a. Dans tout ce qu'il essaie et dans tout ce qu'il réussit aussi quelque part à imposer, c'est que nous sommes très concernés par tout ce que nous défendons à l'intérieur même de ce qui nous constitue, que ce soit de la partie bénévole, que ce soit de la partie salariée, que ce soit que sais-je encore. Enfin, nous sommes des personnes concernées par les questions que nous venons poser. Nous sommes des personnes concernées et aussi qui continuent à vouloir dire au reste du monde, regardez-nous, nous méritons d'être respecté. Et ça, en fait, oser essayer de faire, c'est très important parce que bien sûr qu'il y aura des ratés. Enfin, moi, à titre personnel, je me suis beaucoup politisée sur des choses par Nuit Debout. Nuit Debout, c'est terminé. Et j'estime que les graines plantées dans ma tête se retrouvent avec ce que j'ai pu faire ici. Et voilà.
Rachida, tu veux compléter aussi ?
Oui, je voulais juste rajouter, après Marina l'a très bien expliqué, que le public, notre public, enfin je dis notre public parce que j'ai l'impression que comparé à d'autres lieux à Paris, je pense que c'est le cas par exemple de la station du Sample ou de Fawa qu'on a accueilli hier, mais notre public fait partie aussi des personnes que tu as pu citer, des salariés, des bénévoles. En fait, on inclut aussi notre public dans cette démarche de réflexion et dans cette démarche d'expérimentation aussi, en fait. Voilà.
Ce qui est sûr, c'est qu'a priori, c'est la dernière saison de La Flèche d'Or telle qu'on la connaît. Vous allez partir l'été prochain, si je ne dis pas de bêtises. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu pourquoi ? Et en même temps, en tout cas, ce que je retiens de cet échange qu'on a depuis 19h tous les 6, c'est que le bilan, il reste positif. Tu parlais de ces graines qui sont plantées dans ta tête et puis peut-être dans celles de tes camarades et des gens qui sont venus ici. Donc voilà, pourquoi cette fin et quelle perspective quand même pour vous ? Qui veut répondre ? C'est une question très ouverte. Sandra.
Oui, tout à fait. Pourquoi cette fin ? Car il y a des contraintes matérielles, en fait. Ce lieu qui a été repris en 2021 a été remis en forme par, au début, la force des bénévoles et des personnes salariées. Et ensuite, quand le lieu a été racheté par la mairie, c'est ça ? La mairie s'est investie pour essayer de remettre aussi aux normes des travaux sur l'infrastructure, l'électricité, ce genre de choses. Ce qui a d'ailleurs valu aussi une fermeture administrative
de quatre mois l'année dernière, la saison dernière. Ouais.
Voilà. Et là, ça continue. En fait, malheureusement, ce bâtiment est très vieux et a besoin d'être refait. Notamment, je crois qu'il y a des questions d'isolation aussi, notamment par rapport au voisinage, d'isolation acoustique, car voilà, y a le son traverse, se propage par le sol ou par les murs avec les immeubles mitoyens. C'est très compliqué pour le voisinage, en fait. Donc, il n'y a pas que ça, la toiture, ce genre de choses. Donc, voilà, fermeture pour travaux. C'est ça la raison. Bon.
Et cette fois, vous ne reviendrez pas derrière, du coup ?
Ça, on ne sait pas.
Money.
D'accord. Bon, on espère encore.
oui, en tout cas, la mairie nous fait fermer parce qu'elle va rénover le site, comme l'a dit Sandra. Et il y aura après un appel à projet qui va être lancé. Ce que nous, on aurait aimé, c'est effectivement négocier déjà l'appel à projet et savoir si on va pouvoir revenir après les travaux. Au jour d'aujourd'hui, on n'a aucune nouvelle. Du coup, on ne sait pas encore. Sûrement que le collectif va peut-être dans une autre forme répondre à l'appel à projet, mais on ne sait pas si on sera ici après les travaux qui auront lieu pendant 2 ans.
Bon, on croise les doigts pour se retrouver peut-être ici dans 2 ans et plus pour fêter des 10 ans et des 15 ans tous ensemble sur Radio Campus Paris. Merci beaucoup Marina, Rachida, Sandra et Mika d'avoir été avec nous et surtout pour l'accueil. On est ravis d'être ici. Le 5e anniversaire de la Flèche d'Or, je le redis très rapidement, c'est jusqu'à dimanche avec ce soir le lancement de Radio 5, la radio des 5 ans d'occupation avec le soutien de nos amis du collectif. Transmission et à suivre dans la prochaine demi-heure. Ce sera le Zoom avec Hubert qui reçoit Prin Davigo pour son court-métrage sur la cantine de la Flèche d'Or. Et puis il y aura les chroniqueuses de la matinale de 19h, Mathilde qui nous parle de Chine qui s'installe au BHV et aux Galeries Lafayette, et Delila qui sera un peu notre Patrick Cohen à nous ce soir, vous verrez. Pour l'instant, on est très en retard, et il est 19h35 sur Radio Campus Paris. Un point sur l'actualité.
Le Flash Info de la matinale de 19h.
Avec Félix. Salut Félix.
Bonsoir. Près de 600 000 personnes dans la rue, se annonce la CGT, 195 000 selon le ministère de l'Intérieur. La mobilisation s'est essoufflée depuis le 18 septembre qui avait réuni 1 million de personnes selon les chiffres de l'intersyndicale. Mais pour la secrétaire générale de la CGT, Sophie Binet, la colère sociale est extrêmement forte. Pour cette journée du 2 octobre, les revendications restaient les mêmes, la suppression de la réforme des retraites, le besoin de plus de justice fiscale et la taxation des plus riches étaient les arguments qui revenaient le plus dans tous les cortèges de manifestants. Le Premier ministre Sébastien Lecornu a notamment proposé dans la journée une mesure en faveur de la retraite des femmes ou encore la baisse des impôts sur le revenu des plus modestes. Des suggestions jugées insuffisantes par les représentants syndicaux et les manifestants. Alors que l'on est entré dans le 24e jour sans gouvernement, les syndicats de gauche et la droite attendent désormais des propositions solides. Sébastien Lecornu donnera un discours de politique générale la semaine prochaine. L'octocrylène fait mal aux octopus et impacte le monde aquatique plus globalement. C'est ce que fait émerger un avis de l'ANSES, l'Agence nationale pour la sécurité sanitaire, publié aujourd'hui. L'octocrylène est une molécule présente dans 30% des produits solaires et dans un certain nombre de produits cosmétiques. Son utilisation est répandue en raison notamment de ses propriétés d'absorbeur d'UV et de photostabilisant. Le problème de cette substance est qu'elle impacte hautement, elle a un impact hautement toxique sur la reproduction et la croissance des espèces aquatiques. Ainsi, l'objectif de cet avis publié est de recommander un seuil à ne pas dépasser lors de la confection de ces produits. À ce niveau de concentration, la molécule perd ses propriétés, rendant ainsi obsolète son ajout lors de la fabrication. La flottille pour Gaza n'aura pas atteint son objectif. La marine israélienne a déjà intercepté les navires qui participaient à cette expédition. Elle nie d'ailleurs toute pénétration dans ces eaux du bateau Mykonos, ce qu'avaient revendiqué les organisateurs du mouvement humanitaire. La flottille était partie d'Espagne début septembre, mobilisant 45 navires. Le but était de briser le blocus de la bande de Gaza imposé par l'État hébreu. La militante suédoise Greta Thunberg ou encore l'eurodéputée française Rima Hassan faisaient partie de ces équipages. Nombreux sont les États qui condamnent ces arraisonnements en eau internationale, parmi eux le Brésil, la Turquie ou encore l'Espagne. La France insoumise a appelé à se mobiliser partout en France à partir de 18h30 pour demander la libération immédiate des équipes et la fin du génocide. Fin de citation.
Merci beaucoup Félix, bah voilà, on est bien informés grâce à toi sur Radio Campus Paris 93.9 FM. La matinale de 19h, ça continue dans un instant. Ok, on est énervé en fait ce soir sur Radio Campus Paris. C'est Thunder Rage, Why Are You Looking At Me, 19h39.
La matinale de 19h.
Et on parle de Shein maintenant. Shein, cette entreprise chinoise symbole de l'ultra fast fashion qui va ouvrir ses premiers magasins physiques en France et pas n'importe où, au BHV et aux Galeries Lafayette. Salut Mathilde.
Bonsoir.
On sait que Shein est depuis longtemps en quête de respectabilité et cette installation prochaine a donc de quoi interroger.
Eh oui, est-ce que j'ai mal lu cette info hier soir ? Je vous jure, je me suis frotté les yeux à deux reprises jusqu'à ce que je comprenne que c'était pas le fruit de mon imagination ou un cauchemar, mais bien la réalité. Shein débarque au BHV et aux Galeries Lafayette dès novembre prochain. Oui, oui, vous avez bien entendu. Shein, le temple de la fast fashion jetable, des tops à moins de 3 euros et des jeans qui survivent à deux lavages. Bref, le champion du textile low cost made in enfer. Et ce n'est pas un pop-up de 3 jours, hein, non, c'est des magasins physiques pérennes. La France comme terrain de jeu mondial pour Shein, la patrie de la haute couture, capitale de la mode, berceau du chic, et on se tape l'enseigne la plus critiquée de la planète. Si ce n'est pas un plot twist, je ne sais pas ce que c'est. Évidemment, Shein, cela joue grand discours corporate. Je cite « Nous voulons revitaliser les centres-villes », nous confie Donald Tang, président du groupe Shein. Parce qu'après Paris, il ne s'arrête pas là à notre grande ou pas surprise. La marque veut s'implanter dans des Galeries Lafayette à Dijon, Reims, Grenoble, Angers et Limoges, à leur plus grand malheur. Bon, faut quand même que je vous fasse un petit rappel rapide du CV de Shein, histoire de reposer les bases. 15% de leurs vêtements contiennent des substances chimiques dangereuses dépassant les limites réglementaires de l'Union européenne, selon un rapport de Greenpeace. Les ouvrières et ouvriers sont exploités, exposés à ces substances chimiques dangereuses pour la santé, sous-payés et parfois forcés de bosser dans des conditions indignes. Il faut rappeler que selon une enquête de Bloomberg, Shein profiterait, comme d'autres marques de fast fashion, de l'exploitation des Ouïghours. C'est aussi des tonnes de fringues produites chaque jour, entre 2000 et 10 000 nouvelles références balancées sur leur appli. Ça, c'est pas de la collection, c'est du déversement massif. On continue le listing, désolé. Shein s'est aussi vu être accusé de plagiat à maintes reprises par des petits créateurs, notamment Maison Cléo, marque éco-responsable, qui s'indigne d'avoir bientôt Shein comme voisine de stand au BHV. C'est le monde à l'envers. Et cerise toxique sur le gâteau, 99,8% des produits arrivent en avion cargo, bien sûr. Résultat, c'est plus de 80% d'émissions de carbone entre 2022 et 2023. Alors, évidemment, les réactions fusent. Les galeries Lafayette à Paris disent banco, mais leur réseau en province crie au scandale. Je cite, on refuse Shein dans nos murs. La Fédération nationale de l'habillement parle carrément de manque d'imagination alarmant. Autrement dit, vous avez vendu votre âme à Lucifer pour 3 chemises à paillettes. Bref, c'est le combo parfait, vêtements jetables, toxiques, fabriqués dans des conditions inhumaines et qui flinguent la planète. Alors évidemment, on peut se dire, ok, c'est pratique, c'est pas cher, ça fait plaisir d'avoir du neuf, mais à quel prix ? Parce que franchement, si le BHV est en train de se réinventer en accueillant Shein, ça ressemble plus à une régression qu'à une réinvention. En fait, pour citer Yann Riovan, président de la Fédération du prêt-à-porter féminin, le BHV s'associe avec le diable. Voilà, il a tout dit. Alors, à vous de voir. Vous pouvez continuer à remplir vos paniers virtuels pour 30 euros les 12 articles ou vous pouvez vous demander si ça vaut le coup de troquer la planète et la dignité humaine contre un top fluo qui tiendra 2 soirées. Heureusement, le collectif Fashion Revolution prépare déjà sa contre-attaque nationale pour dire non à la pérennisation de Shein en France et on devrait faire de même.
Eh ben, merci beaucoup, Mathilde. Et on applaudit dans la salle, Mathilde. Merci beaucoup. Chacun est maintenant mis face à ses responsabilités quant à l'avenir de Shein. Merci beaucoup. 19h43.
Le Zoom dans la matinale de 19h.
Et le Zoom de la matinale, c'est avec toi, Hubert. Salut.
Salut.
Et ton invité ce soir, c'est Prin Davigo, réalisatrice d'un court-métrage documentaire tourné ici, à la Flèche d'Or.
Salut.
Alors, dans un premier temps, première question, est-ce que vous pouvez vous présenter rapidement du coup, à nos auditeurs? Voilà, pour ceux qui ne vous connaissent pas encore.
Oui, grave, on peut se tutoyer si ça te va. Ouais.
Bien sûr.
Ça, voilà. Du coup, moi, c'est Prin, je suis vidéaste, je fais du montage, de l'image un peu, de la réalisation, de la prod, je cherche du taf, voilà. et du coup, ouais, je viens plutôt du cinéma expérimental, mais du coup, j'ai aussi fait un peu... Enfin, je fais pas mal de formes qui hybrident, et là, voilà, c'est un documentaire, ce film en question.
D'accord. Qu'est-ce que tu entends du coup par cinéma expérimental
Disons que c'est un cinéma. Enfin, en fait, il y a plein de définitions du cinéma expérimental, du coup, c'est assez vaste.
D'accord.
Mais la mienne, c'est plus dans des questions de forme ou liées à la. Par exemple, des questions de narration aussi, de non-linéaire, de transformer, un peu casser des codes aussi de. Que ce soit au montage, que ce soit à l'image, que ce soit dans la façon dont on voit l'objet, quoi. Même si ça peut être un fond de fiction, par exemple, mais qui a voilà, une forme pas forcément traditionnelle.
Plus contemporaine, du coup, ouais.
Oui, ou... Ouais, pourquoi pas.
Ok, donc on en revient du coup au projet. Pourquoi est-ce que tu t'es lancée dans ce projet de court-métrage
En fait, c'est juste parce que c'était après une discussion avec Mika, où on parlait.
Mika, du coup.
Qui était là juste avant.
Responsable de développement,
voilà,
c'est ça.
Voilà, qui fait partie de l'équipe de La Flèche. Et je sais pas, on parlait et on a dit qu'il n'y avait pas forcément trop d'images animées aussi de La Flèche. Et moi, c'était pour moi une façon aussi de bénévoler, de participer au projet. Et j'étais en mode. Moi, ça me ferait trop plaisir de faire des images. Et en fait, à la base, c'était plutôt pour faire des images de com, pour Insta, enfin pour les réseaux. Et au final, c'est, moi, quand j'ai commencé, je me suis dit, genre j'ai envie de faire un film en fait, j'ai pas envie de juste
envie de raconter une histoire plutôt en fait.
Ouais, enfin en tout cas, après je pense que j'avais cette envie depuis longtemps en vrai et que c'était un peu un prétexte, mais oui, en tout cas moi ça faisait un moment que, enfin je sais que c'est un lieu qui est important pour moi et du coup mon envie c'était de comment participer au lieu avec mes compétences, tu vois. Donc il y a ça.
D'accord, ok, merci. Et du coup, juste, comment est-ce que tu as découvert ce lieu dans Paris
J'avoue, je ne sais plus très bien. Je crois juste que quand tu es une personne queer à Paris, dans les milieux militants, queer, machin, bah, juste la Flèche d'Or, c'est assez vite. Enfin, puis aussi, j'ai des copaines qui sont dans l'orga. Enfin, voilà. Je ne pourrais pas te dire comment j'ai découvert. Mais...
Ok, merci. Ok, ok. Et du coup, plus pour revenir par rapport à la réalisation du coup, de ce court-métrage, déjà combien de temps ça t'a pris pour du début du projet jusqu'à la fin?
Du coup, j'ai dû filmer une bonne semaine à peu près. D'accord. En venant... ouais, au total, ça doit faire 5-7 jours de tournage. Et après, la post-prod, c'était un peu plus long parce que c'est moi qui ai... Enfin, du coup, j'ai fait le montage. Je me suis formée à l'étalonnage pour pouvoir l'étalonner.
Donc, les couleurs.
Quoi. Ouais, voilà, les couleurs. Et après, j'ai une copine, donc Marion, qui n'a pas pu venir ce soir, mais qui nous écoute certainement en live maintenant, qui a fait la musique avec Raphaël aussi. Et puis, il y a une personne qui s'appelle Kéliane qui a fait le mixage. Et donc, tout ça, ça a pris quand même plusieurs mois, je pense 4-5 mois.
D'accord.
Au total, parce que juste tout le monde bosse gratuitement, donc forcément ça prend plus de temps et tout ça.
Ok. Voilà. Et tu m'avais parlé aussi de la structure du coup de ce court-métrage. Comment du coup tu as réalisé cette structure
Bah, du coup, l'idée, enfin en tout cas, la forme qu'il prend, c'est plutôt à travers un peu des portraits de personnes qui font. Donc en fait, le film parle du pôle alimentation de la Flèche d'Or, donc qui comprend la cantine, les maraudes et les petits déj solidaires. Et donc, en fait, c'est un peu un portrait via la bouffe de la Flèche en creux à travers les voix de certaines personnes. Donc, ça fait des mini-portraits de plusieurs personnages qui racontent un peu le lieu, en fait.
D'accord, donc tu as pu rencontrer du coup beaucoup de personnes
Pas beaucoup, mais les personnes qui sont un peu là régulièrement, donc les chefs, les gens qui. Les bénévoles qui sont très réguliers.
Est-ce qu'il y a du coup une rencontre qui a pu te marquer particulièrement?
Je pense que toutes les rencontres m'ont marqué, c'est un peu bateau, mais c'est juste que ce lieu. Et plein de très belles personnes. Et du coup, juste chaque personne était superbe à rencontrer. Et je trouve aussi que l'axe de la nourriture pour rencontrer des gens, c'est hyper riche.
Et est-ce que tu dirais, parce que tu disais tout à l'heure, Mika, tu avais dit qu'il n'y a pas beaucoup d'images qui ont été faites de la Flèche d'Or. Nous, on a reçu dans une autre émission sur Radio Campus Paris, J'avais la Bibi, qui propose un cabaret ici tous les mois et qui a réalisé aussi un film, puisqu'il est réalisateur, qui s'appelle Abibi, chanson pour mes amis, qui est un très, très joli film. Est-ce que tu te dirais qu'il y a dans ce lieu, en plus, on en a parlé en première partie d'émission, c'est une ancienne gare, en même temps un lieu un petit peu vieillissant, un petit peu abîmé. Est-ce qu'il y a une cinématographie de ce lieu?
Alors... Ouais, grave. Bah, cette verrière, par exemple, est juste incroyable. Après, ici, je ne vous cache pas que c'est très, très sombre. Et du coup, à filmer, c'est genre un enfer. Quand tu as juste une petite caméra, et comme moi, j'avais... c'est... Mais oui, il y a une aura, on va dire, je pense. Dans
magie
ce jeu,
à capter. Hein.
Ouais, à fond.
Ok, merci beaucoup. Pour revenir, du coup, plus par rapport au financement du coup, de ce court-métrage, comment tu as pu justement t'en occuper? Tu as parlé de bénévolat.
Il n'y a pas de financement. Le financement, c'est France Travail parce que j'avais mon intermittence. Quoi. Tu vois, du coup, j'avais le temps de faire un film bénévolement. Et du coup, les personnes, pareil. Mais non, il n'y a pas de financement. C'est juste. Mais c'est aussi. C'est ce que je disais aussi avant. C'était cette idée de. Participer à ce lieu, ma façon de bénévoler était de faire ça, quoi.
Et de lui rendre...
Voilà, tout comme les gens qui font le bar tous les week-ends bénévolement. Enfin, voilà, c'est dans cette...
De lui rendre honneur un peu en quelque sorte.
Ouais, en tout cas, de capturer... Enfin, je pense qu'il y a aussi... Enfin, c'est pas je pense, il y a une démarche aussi d'archivage avec ce film qui est forte. Moi, c'est aussi quelque chose qui me travaille dans mon travail. Et du coup, évidemment, il y avait aussi une envie de archiver tout ce qui se passe ici, notamment aussi avec la perspective de fin potentielle ou très, très sûre de ce lieu qui arrive. Enfin, c'est quand même un endroit qui a réuni, qui a su créer énormément de choses sur plein de points, que ce soit militant, culturellement, qui réunit plein de personnes et de choses riches. Et je pense que c'est important de garder des traces de tout ça.
En plus, le pôle alimentation, ce n'est pas forcément celui qu'on connaît le plus. Exactement. Puisque c'est un peu ce qu'on disait tout à l'heure avec Rachida, on connaît beaucoup les événements. Et d'insister un peu sur ce côté, le pôle alimentation, le lien social aussi qui s'y crée, etc. Ce n'est pas forcément ce qu'on voit beaucoup.
Ouais, carrément, c'est clair. Ouais.
Et pour revenir du coup au public du coup à qui s'adresse ce court-métrage, est-ce que tu pourrais nous dire un peu ta pensée
Je sais pas, je pense qu'il a différents publics. Enfin, je pense que d'abord il peut s'adresser à la commu, aux gens de La Flèche aussi. C'est aussi une façon de leur dire, enfin. Je sais pas, de se souvenir de tout ce qui a été fait. Et du coup, à la fois les personnes de l'équipe, mais les personnes bénévoles, les gens qui fréquentent, c'est pour elles aussi, c'est une trace de quelque chose de moments qui ont existé. Et du coup, à travers juste cet objet, c'est évocateur de plein de souvenirs, je pense, pour les personnes qui gravitent dans ce lieu. Après... à mon sens, c'est aussi important que ce soit vu par des personnes moins concernées pour aussi montrer la puissance politique de cet espace. Et du coup, ça va venir à une question que tu m'as dit qu'elle arrivait, mais sur la question de diffusion et de qu'est-ce qu'on fait de cet objet et où est-ce qu'il est vu. Et c'est un peu des questions ouvertes aussi que moi, j'ai envie de poser aussi. Qu'est-ce qu'on fait de ça? Est-ce que... Pour pas que ça reste aussi, enfin que ces initiatives, elles
infusent.
Ouais, elles infusent,
elles se développent un peu partout.
Et je pense que le cinéma c'est un moyen aussi de faire parvenir des choses et de
faire prendre conscience aussi peut-être aux personnes qui sont pas dans ce monde-là, milieu de ce qui se fait aussi.
Ouais.
Et en tout cas, puisque tu parlais de la diffusion, on va pouvoir voir le film dans un court instant ici à la Flèche d'Or. Merci beaucoup, en tout cas.
Est-ce que j'ai juste un petit truc à dire? Du coup, il n'y a pas encore de titre, en fait.
Oui.
Et du coup, je vous propose, quand vous regardez le film, de penser à un titre. Et après, on pourra voter ensemble le
What
titre du film. Voilà.
Très bien. Et pour voir ce film ici à la Flèche d'Or, il faut nous rejoindre ici à la Flèche d'Or si vous nous écoutez sur Radio Campus Paris. Mais très, très vite. Et puis en plus, si vous le faites, vous allez rater la chronique qui arrive. En tout cas, merci beaucoup, Prince Navigo, et merci à toi, Hubert. 19h54.
La matinale de 19h. 93.9 FM.
Un peu de sérieux pour finir cette matinale avec toi, Delila, puisqu'on te retrouve pour un édito politique que tu m'as présenté comme parfaitement rigoureux. J'attends donc de juger sur pièce.
Mais oui, absolument rigoureux. Alors pour le 5e anniversaire de La Flèche d'Or, bon déjà tonnerre d'applaudissements pour La Flèche d'Or qui nous accueille ce soir, messieurs, dames. Cette semaine, j'ai décidé de ne pas faire un petit tour d'actualité pour une fois, donc évidemment, je vais éviter de parler de sujets sensibles. Pas intéressant, genre la condamnation de Sarkozy. Et voilà, je savais que j'étais avec des électeurs de Jean-Luc Mélenchon. Bande de wokistes. Non, en vrai, pas de mauvais sang avec lui. Je lui souhaite la santé, hein, Nicolas Sarkozy. Enfin, la prison de la santé, bien sûr. Mon anticarcéralisme s'arrête à Sarko et Le Pen en zonzon. Pour les 5 ans de la Flèche d'Or, donc, j'ai décidé de vous parler de queer qui m'inspire. Celles et ceux qui font trembler mon petit cœur de femme trans enragée, qui me donne envie de me lever, le saisir, le pavé, pour ériger les barricades du vivre ensemble dans le respect des valeurs de la République. Alors top 3, Gabriel Attal. Alors je sais que c'est une hot take, mais sa cravate, son sourire, son autorité aussi, Moi, si on me dit...
Tu casses, tu répares, tu salis, tu nettoies.
T'inquiète que tu peux me salir, beau gosse. Il a créé le SNU, il voulait redresser la jeunesse. Bon, finalement, Sébastien Lecornu l'a enterré. Je parle du SNU, pas de Attal. Parce que ça coûtait trop d'argent, mais il a redressé quelque chose d'autre. Je présente mes excuses à l'organisation pour cette chronique. Numéro 2, Olivier Dussopt. Alors là, je sais, personne ne s'y attendait, mais tout est dans le faciès. Entre la veine sur le front et son indéboulonnable air de « je vais sans doute me chier dessus et ce sera comme l'amour, ça arrivera quand tu t'y attendras le moins », je trouve ça hyper attendrissant, j'ai envie de l'enrouler dans un plaid et de changer sa couche. Je suis déçu qu'il ait disparu du paysage politique après sa super réforme qui n'a provoqué aucun mouvement social, bien sûr. Et enfin, en top 1, Sarah El Haïry. Franchement, c'est ma préférée parce que toutes ses prises de parole sont hyper engagées. Elle est lesbienne, elle a eu un enfant par PMA et en plus, elle a un discours hyper novateur sur le pays. On sent qu'elle veut bousculer le jeu politique, genre quand elle dit assez ce soir...
Moi, ce qui me m'effraie encore plus que Zemmour, c'est les discours intersectionnels du moment.
Parce que voilà, elle met les pieds dans le plat. Et moi aussi, je vais vous le dire, le wokisme, à un moment donné, ça va deux minutes. Si on ne peut plus tomber sur les Noirs, les personnes handicapées, les trans, les PD, les Gouines, les Arabes, en fait, on tombe sur qui, hein ? De qui va-t-on se moquer dans cette grande cour de récré qu'est le monde néolibéral ? Quand on ne peut plus s'attaquer à personne, la prochaine étape, c'est de s'attaquer aux valeurs de la République, qui, tout le monde le sait, sont égalité et réconciliation... travail, famille...
Toujours plus loin, toujours plus haut, toujours plus fort.
Non, je crois que c'est pas ça non plus, bref. Faire ce petit top, ça m'a fait réfléchir, est-ce que de manière tout à fait inhérente, et oui, on utilise des mots compliqués alors qu'il y a deux minutes, on parlait du caca d'Olivier Dussopt, est-ce qu'on devient une belle personne pleine de bonnes intentions quand on n'est pas hétérosexuel ? Alors j'aimerais qu'on s'interroge aujourd'hui sur le libéralisme LGBT. Est-ce que c'est mieux si les politiques de droite sont menées par des personnes LGBT ? Est-ce que plus des lesbiennes égale slay queen ? On a baissé le budget de la culture, mais est-ce que Margaret Thatcher aurait été moins tyrannique si elle avait été asexuelle et polyamoureuse ? Est-ce que la vraie différence là-dedans, ce serait pas avant tout la classe sociale ? On l'a un peu oublié, mais je rappelle qu'une influenceuse lesbienne aux tendances libérales avait dîné avec Attal et Véran, et quand elle s'était fait attraper la veste sur les réseaux, elle avait tweeté, je cite, « Nous avons dîné avec trois membres du gouvernement le plus queer de l'histoire de France depuis Jésus ». Et je suis pas sûr de comprendre la phrase. Pour moi, ça veut dire que Jésus était queer et au premier gouvernement de l'histoire de France. Mais du coup, c'était qui ses ministres ? Ses apôtres ? Est-ce que ça veut dire que la Bible, depuis le début, c'est juste l'histoire française pour les nuls ? En tout cas, le miracle pour Macron, c'est que personne ne l'a encore trahi avant d'emmener les Français l'attraper par le slip pour le foutre sur une croix. Le martyr néolibéral, trahi par le peuple et la République. En tout cas, vive les trans, les PD et les Gouines, vive nous, vive la Flèche d'Or, Free Palestine et...
Merci beaucoup, Delila. Et en plus, je crois, on m'a dit dans l'oreillette que c'était ton anniversaire, Delila.
Ah, ce n'est pas mon anniversaire, mais c'est bientôt, c'est le 7 octobre.
Bon.
Marquez dans vos agendas, bien sûr.
On me donne des informations tellement fausses. Merci beaucoup. Bah, c'est déjà la fin de cette émission. C'est déjà la fin de la matinale de 19h. À la réalisation ce soir, Gabriel et Vaudoucy. À la technique, Eléa, Simon, Bettina et Pierre. Au son à la flèche, il y avait Sonia. Aude à la coordination. Et puis au micro, Francesca, Hubert, Félix, Mathilde et Delila. La soirée continue sur Radio Campus Paris avec Enquête en tout genre. Et puis à 21h, c'est Map Monde. Et dans un instant, restez à la Flèche d'Or puisqu'on va pouvoir voir le court-métrage documentaire de Prince Davigo. Et je rappelle qu'il faut trouver un titre, alors soyez attentifs s'il vous plaît. Merci beaucoup, bonne soirée sur Radio Campus Paris.